Vidocq, mémoire, chapitre 15. D'après les dangers que je courais en restant avec Roman et sa troupe, on peut se faire une idée de la joie que je ressentis de les avoir quittés. Il était évident que le gouvernement, une fois solidement assis, prendrait les mesures les plus efficaces pour la sûreté de l'intérieur. Les débris de ces bandes qui, sous le nom de chevaliers du soleil ou de compagnie de Jésus, devaient leur formation à l'espoir d'une réaction politique, ajournée indéfiniment, ne pouvaient manquer d'être anéantis aussitôt qu'on le voudrait. Le seul prétexte honnête de leur moyen d'âge, le royalisme n'existait plus et, quoique les hivers, les lepêtres, les boulangers, les bastides, les jussiens et autres fils de famille se fissent encore une gloire d'attaquer les ouvriers courriers parce qu'ils y trouvaient leur profit, ils commençaient à n'être plus de bon ton de prouver que l'on pensait bien en s'appropriant par un coup de main l'argent de l'État. Tous ces incroyables, à qui il s'avait semblé piquant d'entraver le pistolet au point la circulation des dépêches et la concentration du produit des impôts, rentraient dans leur foyer. Ceux qui en avaient ou achetaient de se faire oublier ailleurs, loin du théâtre de leurs exploits. En définitive, l'ordre se rétablissait et l'on touchait à terme où ces brigands, quelle que soit leur haute couleur ou leur motif, ne jouiraient plus de la moindre considération. J'aurais eu le désir, dans de telles circonstances, de m'enrôler dans une bande de voleurs que, abstraction faite de l'infamie que je ne redoutais pas, je m'en fusse bien gardé par la certitude d'arriver promptement à l'échafaud. Mais une autre pensée m'animait. Je voulais fuir, à quelque prix que ce fût, les occasions et les voies du crime. Je voulais rester libre. J'ignorais comment ce vœu se réaliserait. N'importe où mon parti était pris. J'avais fait, comme on dit, une croix sur le bagne. Pressé que j'étais de m'en éloigner de plus en plus, je me dirigeais sur Lyon, évitant les grandes routes jusqu'aux environs d'Orange. Je trouvais des rouliers provençaux dont le chargement m'eut bientôt révélé qu'ils allaient suivre le même chemin que moi. Je liais conversation avec eux, et comme ils me paraissaient d'assez bonnes gens, je n'hésitais pas à leur dire que j'étais déserteur et qu'ils me rendraient un très grand service si, pour m'aider à mettre en défaut la vigilance des gendarmes, ils consentaient à m'impatroniser parmi eux. Cette proposition ne leur causa aucune espèce de surprise. Il semblait qu'ils se fussent attendus que je réclamerais l'abri de leur inviolabilité. À cette époque, et surtout dans le Midi, il n'était pas rare de rencontrer des braves qui, pour leur fuir leur drapeau, n'en mettaient pas aussi prudemment à la garde de Dieu. Il était donc tout naturel que l'on fût disposé à m'en croire sur parole. Les rouliers me firent bon accueil. Quelque argent que je laissais voir à dessein acheva de les intéresser à mon sort. Il fut convenu que je passerais pour le fils du maître des voitures qui composait le convoi. En conséquence, on m'affubla d'une blouse, et comme j'étais censé faire mon premier voyage, on me décora de rubans et de bouquets, joyeux insignes qui, dans chaque auberge, me valurent les félicitations de tout le monde. Nouveau Jean de Paris, je m'acquittais assez bien de mon rôle, mais les largesses nécessaires pour le soutenir convenablement portèrent à ma bourse de si rudes atteintes qu'en arrivant à la Guillotière, je me séparais de mes gens, il me restait en tout 28 sous. Avec de si minces ressources, n'avait pas songé aux hôtels de la place des Terreaux. Après avoir erré quelque temps dans les rues sales et noires de la seconde ville de France, je remarquai, rue des Quatre Chapeaux, une espèce de taverne où je pensais que l'on pourrait me servir un souper et proportionner à l'état de mes finances. Je ne m'étais pas trompé. Le souper fut médiocre et trop tôt terminé. Rester sur son appétit est déjà un désagrément, et ne savoir où trouver un gîte en est un autre. Quand j'essuyai mon couteau, qui pourtant n'était pas trop gras, je m'attristai par l'idée que j'allais être réduit à passer la nuit à la Belle Étoile, lorsqu'à une table voisine de la mienne, j'entendis parler cet Allemand corrompu qui étudiait dans quelques cantons des Pays-Bas et que je comprenais parfaitement. Les interlocuteurs étaient un homme et une femme déjà sur le retour. Je les reconnus pour des Juifs. Instruit qu'à Lyon, comme dans beaucoup d'autres villes, les gens de cette caste tiennent des maisons garnies, où l'on met volontiers les voyageurs en contrebande, je leur demandai s'ils ne pourraient pas m'indiquer une auberge. Je ne pouvais mieux m'adresser. Le Juif et sa femme étaient des logeurs. Ils m'offrirent de devenir mes hôtes, et je les accompagnai chez eux, rue Thomassin. 6 lits garnissaient le local dans lequel on m'installa. Aucun d'eux n'était occupé. Pourtant, il était 10 heures. Je crus que je n'aurais pas de camarade de chambrée et je m'endormis dans cette persuasion. À mon réveil, et des mots d'une langue qui m'était familière viennent jusqu'à moi. « Voilà, si plombe une mèche qui crosse, » dit une voix qui ne m'était pas inconnue. « Tu pioces encore ? » ?»« Voilà 6 heures et demie qui sonnent, tu dors encore ?» « Je crois bien. Nous avons voulu maquiller à la sorge. C'est un orphelin, mais le pâtre était chaud. J'ai vu le moment où il faudrait jouer du 22. L'heure y a eu du raisinet. Nous avons voulu voler cette nuit chez un orfèvre, mais le bourgeois était sur ses gardes. J'ai vu le moment où il faudrait jouer du poignard. Et alors il y aurait du sang. » « Ah, t'as eu peur d'aller à l'abbaye de Montaragret ? Mais en goupillant comme ça, on n'affirme pas de notaire. Ah, tu as eu peur d'aller à la guillotine, mais en travaillant de la sorte, on n'attrape pas d'argent. J'aime mieux faire suer le chêne sur le grand trimard que d'écouter les bouards. On a toujours les lièges sur le dos. » J'aimerais mieux assassiner sur la grande route que de forcer des boutiques. On a toujours les gendarmes sur le dos. Enfin, vous n'avez rien, Gunchy. Il y avait pourtant de belles fourrières, des coucous et des bruits d'Orient. Le guérial n'aura rien à remettre au sougar. Enfin, vous n'avez rien pris. Il y avait pourtant de belles tabatières, des montres, des chaînes d'or. Le Juif n'aura rien recelé. Non, le carouble est escaté dans la servante. Le riflard, vas-tu en rose, il a fallu se donner de serre. Non, la fausse clé s'est cassée dans la serrure. Le bourgeois a crié au secours, il a fallu se sauver. Et les autres, dit un troisième interlocuteur, ne baissez donc pas pourtant le chiffon rouge. Il y a un chêne qui peut prêter l'oche. Ne remets pas tant la langue, il y a un homme qui peut prêter l'oreille. La vie était tardif. Cependant, on se tut. J'entrouvris les yeux pour voir la figure de mes compagnons de chambre, mais mon lit était le plus bas de tous. Je ne pus rien apercevoir. Je restais immobile pour faire croire à mon sommeil. Lorsque l'un des causeurs s'est enlevé, Je reconnus un évadé du bagne de Toulon, neveu, parti quelques jours avant moi. Son camarade saute du lit. C'est cadet Paris, l'autre grand évadé. Un troisième, un quatrième individu se mettent sur l'océan. Ce sont aussi des forçats. Il y avait de quoi se croire encore à la salle numéro 3. Enfin, je quitte à mon tour le grabat. Et à peine ai-je mis le pied sur le carreau, qu'un cri général s'élève. Mais c'est Vidocq! On s'empresse, on me félicite. L'un des voleurs du garde-meuble, Charles Deschamps, qui s'était sauvé peu de jours après moi, me dit que tout le bagne était dans l'admiration de mon audace et de mes succès. 9 heures sonnent, on m'emmène déjeuner au Brotteau, où je trouve les frères Quinet, Bonnefoy, Métaille, Lemas, tous fameux dans le midi. On m'accable de prévenance, me procure de l'argent, des habits, jusqu'à une maîtresse. J'étais là, comme on le voit, dans la même position qu'à Nantes. Je ne me souciais pas plus qu'en Bretagne d'exercer le métier de mes amis, mais je désirais recevoir de ma mère un secours pécuniaire. Il fallait vivre en attendant. J'imaginais que je parviendrais à me faire nourrir quelque temps sans travailler. Je me proposais rigoureusement de n'être qu'en subsistance parmi les voleurs. Mais l'homme propose et Dieu dispose. Les évadés, mécontents de ce que, tantôt sous un prétexte, tantôt sous un autre, j'évitais de concourir au vol qu'ils commettaient chaque jour, me firent dénoncer sous main pour se débarrasser d'un témoin important et qui pouvait devenir dangereux. Ils présumaient bien que je parviendrais à m'échapper, mais ils comptaient qu'une fois reconnu par la police et n'ayant d'autre roi refuge que leur bande, je me déciderais à prendre parti avec eux. Dans cette circonstance, comme dans toutes celles du même genre où je me suis trouvé, si l'on tenait tant à m'embaucher, c'est que l'on avait une haute opinion de mon intelligence, de mon adresse et surtout de ma force. Qualité précieuse dans une profession où le profit est trop souvent rapproché du péril. Arrêté, passage Saint-Côme, chez Adèle Buffin, je fus conduit à la prison de Roanne. Dès les premiers mots de mon interrogatoire, je reconnus que j'avais été vendu. Dans la fureur où me jeta cette découverte, je pris un parti violent, qui fut en quelque sorte mon début, dans une carrière tout à fait nouvelle pour moi. J'écrivis à M. Dubois, commissaire général de la police, pour lui demander de l'entretenir en particulier. Le même soir, on me conduisit dans son cabinet. Après lui avoir expliqué ma position, je lui proposai de le mettre sur les traces des frères Quinet, alors poursuivi pour avoir assassiné la femme d'un maçon de la Belcordière. J'offris en outre de donner les moyens de saisir de tous les individus logés, tant chez le juif que chez Carlerin, menuisier rue Écorcheboeuf. Je le mettais à ce service d'autre prix que la liberté de quitter Lyon. Monsieur Dubois devrait avoir été plus d'une fois dupe de pareilles propositions. Je vis qu'il hésitait à s'en rapporter à moi. « Vous doutez de ma bonne foi, lui dis-je. La suspecteriez-vous encore? Si m'étant échappé dans le trajet pour retourner à la prison, je revenais me constituer votre prisonnier. « Non, me répondit-il. Eh bien, vous me reverrez bientôt, pourvu que vous consentiez à me faire des surveillants aucune recommandation particulière. » Il accéda à ma demande. L'on m'emmena. Arrivé au coin de la rue de la Lanterne, je renverse les deux estafiers qui me tenaient sous les bras et je regagne à toutes jambes l'hôtel de ville où je retrouve Monsieur Dubois. Cette prompte apparition le surprit beaucoup, mais certain dès lors qu'il pouvait compter sur moi, il permit que je me retirasse en liberté. Le lendemain, je vis le juif qu'on nommait Vidal. Il m'annonça que mon ami était allé loger à la Croix-Rousse, dans une maison qu'il m'indiqua. Je m'y rendis. On connaissait mon évasion, mais comme on était loin de soupçonner mes relations avec le commissaire général de la police, et qu'on ne supposait pas que j'eusse deviné d'où partait le coup qui m'avait frappé, on me fit un accueil fort amical. Dans la conversation, je recueillis sur les frères Quinet des détails que je transmis la même nuit à M. Dubois, qui, bien convaincu de ma sincérité, me mit en rapport avec M. Garnier, secrétaire général de police, aujourd'hui commissaire à Paris. Je donnai à ce fonctionnaire tous les renseignements nécessaires, et je dois dire qu'il opéra de son côté avec beaucoup de tact et d'activité. 2 jours avant qu'on effectuât, d'après mes indications, une descente chez Vidal, je me fis arrêter de nouveau. On me reconduisit dans la prison de Roanne, où arrivèrent le lendemain Vidal lui-même. Carin, Neveu, Cadet-Paul, Deschamps et plusieurs autres qu'on avait pris en même coup de filet. Je restai d'abord sans communication, parce que j'avais jugé convenable de me faire mettre au secret. Et quand j'en sortis au bout de quelques jours, pour être réuni aux autres prisonniers, je feignis une grande surprise de trouver là tout ce monde. Personne ne paraissait avoir la moindre idée du rôle que j'avais joué dans les arrestations. Neveu seul me regardait avec une espèce de défiance. Je lui en demandais la cause. Il m'avoua qu'à la manière dont on l'avait fouillé et interrogé, il ne pouvait s'empêcher de croire que j'étais le dénonciateur. Je jouais l'indignation, et dans la crainte que cette opinion ne prît de la constance, de la consistance, je réunis les prisonniers. Je leur fis part des soupçons de Neveu en leur demandant s'ils me croyaient capable de vendre mes camarades. Tous répondirent négativement, et Neveu se vit contraint de me faire des excuses. Il était bien important pour moi que ces soupçons se dissipassent ainsi, car j'étais réservé à une mort certaine, si ce fût confirmé. On avait vu à Roanne plusieurs exemples de cette justice distributive que les détenus exerçaient entre eux. Un homme et moi seul soupçonnés d'avoir fait des relations, révélations relativement à un roi de vase sacré, avaient été assommés dans les cours sans qu'on sût jamais découvrir avec certitude quel était l'assassin. Plus récemment, un autre individu accusé d'une indiscrétion du même genre avait été trouvé un matin pendu avec un lien de paille au barreau d'une fenêtre, et les recherches n'avaient pas eu plus de succès. Sur ces entrefaites, M. Dubois me manda à son cabinet, où, pour écarter tout soupçon, on me conduisit avec d'autres détenus, comme si ce fût agi d'un interrogatoire. J'entrai le premier. Le commissaire général me dit qu'il venait d'arriver à Lyon plusieurs voleurs de Paris, fort adroits et d'autant plus dangereux que, munis de papiers en règle, ils pouvaient attendre en toute sécurité l'occasion de faire quelques coups pour disparaître aussitôt après. C'était Jallier, dit Bourbanec, Bouty, dit Cadet, Gérard, Buchard, Molin, dit le chapelier, Marquis d'Imador et quelques autres noms fameux. Ces noms sous lesquels ils se furent désignés étaient alors tout à fait inconnus. Je le déclarai à M. Dubois en ajoutant qu'il était possible qu'ils fussent faux. Il voulait me faire relâcher immédiatement pour qu'en voyant ces individus dans quelque lieu public, je pusse m'assurer s'ils n'avaient jamais passé sous les yeux. Mais je le fis observer qu'une mise en liberté aussi brusque ne manquerait pas de me compromettre vis-à-vis des détenus, dans le cas où le bien en service l'exigerait qu'on m'écoutât de nouveau. La réflexion parut juste, et il fut convenu qu'on aviserait au moment et au moyen de me faire sortir le lendemain, sans inconvénient. Neveu, qui se trouvait parmi les détenus extraits en même temps pour subir l'interrogatoire, me succéda dans le cabinet du commissaire général. Après quelques instants, je l'en vis sortir fort échauffé. Je lui demandai ce qui lui était advenu. Quoi es-tu? Me dit-il. Quel curieux m'a demandé si je voulais macaronner les pièges de la Grande Verne qui viennent d'arriver ici. S'il n'y a que moi pour les enflaquer, ils pourront bien décorer la belle. Croirais-tu que le commissaire m'a demandé si je voulais faire découvrir des voleurs qui viennent d'arriver de Paris? Oh, s'il n'y a que moi pour les faire arrêter, ils sont bien sûrs de se sauver. Oh, mais je ne te croyais pas si job, repris-je, songeant rapidement aux moyens de tirer parti de cette circonstance. J'ai promis de reconcombrer tous les grinchisseurs et de les faire à ce que pincer. Je ne croyais pas s'y niais. Moi, j'ai promis de reconnaître tous les voleurs et de les faire arrêter. Comment? Tu te ferais cuisinier? D'ailleurs, ne les colore pas. Comment tu le ferais, mouchard? D'ailleurs, tu ne les connais pas. Qu'importe, on se laissera fourbiller dans la vergne, et je trouverai bien moyen de me cavaler, tandis que tu seras encore de chat. Qu'importe, on me laissera courir la ville, et trouverai bien le moyen de m'évader, tandis que tu resteras avec le geôlier. Neveu fut frappé de cette idée. Il témoignait un regret d'avoir repoussé les offres du commissaire général, et comme je ne pouvais me passer de lui pour aller à la découverte, je le pressais fortement de revenir sur sa première décision. Il y consentit, et M. Dubois, que j'avais prévenu, nous fit conduire tous deux un soir à la porte du Grand Théâtre, puis au Célestin, où Neveu me signala tous les hommes. Nous retirâmes ensuite, escortés par les agents de police qui nous serraient de fort près. Pour le succès de mon plan et pour ne pas me rendre suspect, il fallait pourtant faire une tentative qui confirma au moins l'espoir que j'avais donné à mon compagnon. Je lui fis part de mon projet. En passant rue Mercière, nous entrâmes brusquement dans un passage où je tirai la porte sur nous. Pendant que les agents couraient à l'autre issue, nous sortîmes tranquillement par où nous étions entrés. Lorsqu'ils revinrent, tout honteux de leur gaucherie, nous étions déjà loin. 2 jours après, Neveu, dont on n'avait plus besoin et qui ne pouvait plus me soupçonner, fut arrêté de nouveau. Pour moi, connaissant alors les voleurs qu'on voulait découvrir, je les signalai aux agents de police dans l'église de Saint-Nizier, où ils étaient réunis un dimanche dans l'espoir de faire quelques coups à la sortie du salut. Ne pouvant plus être utile à l'autorité, je quittai ensuite Lyon pour me rendre à Paris, où, grâce à M. Dubois, j'étais sûr d'arriver sans être inquiété. Je partis en diligence par la route de la Bourgogne, On ne voyait alors que 2 jours. À Lucy-le-Bois, où j'avais couché comme tous les voyageurs, on m'oublia au moment du départ, et lorsque je m'éveillais, la voiture était partie depuis plus de 2 heures. J'espérais la rejoindre à la faveur des inégalités de la route, qui est très montueuse dans ces cantons. Mais en approchant de Saint-Brice, je pus me convaincre qu'elle avait trop d'avance sur moi pour qu'il me fût possible de la rattraper. Je ralentis alors le pas. Un individu qui cheminait dans la même direction, me voyant tout en nage, me regarda avec attention et me demanda si je venais de Lucy-le-Bois. Je lui dis qu'effectivement, j'en venais, et la conversation resta là. Cet homme s'arrêta à Saint-Brice, tandis que je poussais jusqu'à Auxerre. Excédé de fatigue, j'entrais dans une auberge où, après avoir dîné, je m'empressais de demander un lit. Je dormais depuis quelques heures lorsque je fus réveillé par un grand bruit qui se faisait à ma porte. On frappait à coups redoublés. Je me lève, demi-habillé. J'ouvre et mes yeux, encore troublés par le sommeil, entrevoient des écharpes tricolores, des culottes jaunes et des parements rouges. C'est le commissaire de police, flanqué d'un maréchal de logis et de 2 gendarmes. À cet aspect, je ne suis pas maître d'une première émotion. Voyez comme il pâlit, dit-on à mes côtés. Il n'y a pas de doute, c'est lui. Je lève les yeux, je reconnais l'homme qui m'avait parlé à Saint-Brice. Mais rien ne m'expliquait encore le motif de cette subite invasion. Procédons méthodiquement, dit le commissaire. 5 pieds, 5 pouces, oui, c'est bien ça. Cheveux blonds, sourcils et barbe idem, front ordinaire, yeux gris, nez fort, bouche moyenne, menton rond, visage plein, teint coloré, à assez forte corpulence. Mais c'est lui! S'écrie le maréchal des logis, les 2 gendarmes et l'homme de Saint-Brice. Oui, c'est bien lui, dit à son tour le commissaire. Redingote bleue, culotte de casimir gris, gilet blanc, cravate noire. Oui, c'est à peu près mon costume. Eh bien, n'en avais-je pas dit, observe avec une satisfaction marquée l'officieux guide des sbires. C'est un des voleurs. Le signalement s'accordait parfaitement avec le mien. Pourtant, je n'avais rien volé. Mais dans ma situation, je ne devais pas moins concevoir des inquiétudes. Peut-être était-ce une méprise. Peut-être aussi. L'assistant s'agitait, transporté de joie. Paix donc, s'écria le commissaire. Puis tournant le feuillet, il continua. On le reconnaîtra facilement à son accent italien, très prononcé. Il a de plus le pouce de la main droite, fortement endommagé par un coup de feu. Je parlais devant eux. Je montrais ma main droite, elle était en fort bon état. Tous les assistants se regardèrent. L'homme de Saint-Brice, surtout, par singulièrement déconcerté. Et pour moi, je me serais débarrassé d'un poids énorme. Je me sentais débarrassé. Le commissaire, que je questionnais à mon tour, m'apprit que la nuit précédente, un vol considérable avait été commis à Saint-Brice. Un des individus soupçonnés d'y avoir participé portait des vêtements semblables aux miens. Il y avait identité de signalement. Et c'est à ce concours de circonstances, à cet étrange jeu du hasard, qu'était dû à des agréables visites que je venais de recevoir. On me fit des excuses que j'accueillis de bonne grâce, fort heureux d'en être quitte à si bon marché. Toutefois, dans la crainte de quelque nouvelle catastrophe, je montai le soir même dans une patache qui me transporta à Paris, où je filai aussitôt sur Arras.